Donc, nous en étions au point 10, et je demande à Patrice Nziou de rapporter sur la convention entre la ville de Metz et l'Aguram pour 2009.
Merci, monsieur le maire, chers collègues. Comme chaque année, la ville de Metz signe une convention avec l'Aguram, notamment pour réaliser des études, effectuer des analyses, missions d'assistance spécifiques aux problématiques de la commune. Ces missions font l'objet d'une contribution particulière, fixé au regard des thèmes traités. Outre l'intervention de l'Aguram sur les démarches stratégiques transversales, notamment le contrat de redynamisation de sites de défense, plan Grand Nord-Est, réseau ville, Léla, Sillon-Lorrain. Donc l'agence conduira des missions particulières suivantes. Diagnostic sur les friches urbaines, hospitalières, industrielles et militaires. Réflexion sur le quartier de Devant-les-Ponts, accessibilité des quartiers nord et nord-est de la ville. Et au-delà, l'Aguram mènera une étude spécifique sur la métropolisation Metz-Thionville. Par ailleurs, l'Aguram poursuivra ses missions d'assistance dans les domaines de l'habitat, la politique de la ville, de l'économie et sur la démographie. Le montant de la subvention pour l'ensemble de ces prestations est fixé pour cette année à 170 000 euros. La motion est en conséquence.
Alors, des questions. Je vois M. Antoine, M. Califé, M. Aldrin, le docteur Jacquat et également M. Maréchal. Mme Zimmermann, j'ai noté Mme Zimmermann.
Oui, Zimmermann.
Bon, on va commencer par Mme Zimmermann. Madame, je vous en prie.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, moi, ce point me satisfait beaucoup. Pourquoi ? Et j'ai une question à vous poser par rapport à ce point. Pourquoi il me satisfait beaucoup ? Tout simplement parce que je crois sincèrement qu'aujourd'hui, il faut une solidarité entre Metz et Thionville par rapport à tout ce sillon mosellan vers la frontière luxembourgeoise. Et vers le Luxembourg. Je crois que on est dans un système économique où, sans aucun doute, je ne conteste pas du tout le lien entre Metz et Nancy, mais on a tout à gagner au niveau messin à se tourner vers le nord et avoir cette solidarité entre Metz et Nancy. Ça suppose que... Entre Metz et Thionville. Ça suppose sans aucun doute qu'il y ait d'abord une amélioration des infrastructures. Alors, que ce soit... qu'on ne se méprenne pas sur mes propos. Quand je parle d'infrastructures, c'est pas forcément en rajouter des couches sur la route. Bien au contraire. Mais mettre l'accent beaucoup plus sur... tout ce qui est ferroviaire. Alors, cela demande également, je pense, un rapprochement entre les études du SCOT de l'agglomération Messine et les études du SCOT de la région thionvilloise. C'est le sens de ma question, monsieur le maire. Ce que vous réalisez là, c'est une excellente chose. Envisagez-vous, à ce moment-là, de pouvoir travailler en partenariat au niveau des SCOT. Merci beaucoup, monsieur le maire.
Merci.
Monsieur Antoine.
Oui, monsieur le maire, c'est un complément de la question posée par Marie-Josée Zimmermann. En fait, c'est dans votre esprit, quel est l'objectif ? Quel est le cahier des charges ? Cette question est extrêmement importante, parce que, je veux dire, on est sur un énorme sujet par rapport... je dirais, au petit diagnostic à faire de quartier sur les friches, etc. Là, c'est quand même un sujet à la fois politique. Et alors, c'est quoi exactement le contenu de ce que vous sous-entendez, qui correspond d'ailleurs pas au budget de 170 000 euros pour les quatre opérations. J'imagine que c'est certainement plus coûteux.
Docteur Jacquat.
Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, simplement, donc, petite précision, il est précisé, diagnostic sur les friches urbaines hospitalières, industrielles, je pense qu'on aurait pu ajouter aussi commerciales, peut-être inclus dans l'industriel, parce que dans la presse, ces derniers jours, donc la ville de Metz, c'est la deuxième ou les deux, se réjouissait que le dernier terrain libre au technopôle, donc, venait d'être attribué ou d'être acheté, et que par conséquent il n'y avait plus de terrain disponible, mais à contrario, il y a quand même pas mal de, je dirais, de panneaux indiquant à vendre, à louer, etc. Donc de faire le point à ce propos, parce que d'un côté on nous dit il faut des zones commerciales, et d'autre part on a des friches commerciales existantes, même s'il y a friche et friche, c'est quand même toujours désagréable de dire qu'on est dans une zone d'activité intense, et puis il y a à vendre, à louer. D'autre part, concernant l'Aguram et son action sur l'accessibilité des quartiers nord et nord-est de la ville, des études importantes avaient été donc effectuées concernant la route de Thionville, d'une part, entre, je dirais, la station Solex, comme on l'appelle dans le secteur, et le pont de chemin de fer de la gare de Metz-Nord, et d'autre part, entre la gare de Metz-Nord et la zone du garage Peugeot. Des études avaient été faites pour un réaménagement de ce secteur. Et d'autre part aussi, dans le cadre du GPV, les crédits qui nous ont été donnés donc au niveau national pour ce secteur, il avait été retenu pour le trajet du CTCSP, donc la rue Pierre et Marie Curie, mais ensuite deux options étaient données. Est-ce qu'une option a déjà été choisie, oui ou non, à ce propos, parce que beaucoup d'études ont déjà été effectuées. Enfin, pour terminer, l'Aguram donc est cité pour donner des missions d'assistance à la politique de la ville. Bon, je m'en suis déjà expliqué publiquement parce que j'avais enquêté à ce sujet sur l'échec de l'Aguram concernant l'étude sur la patrotte en son temps. Vous avez eu parfaitement de raison de faire ce que vous avez demandé au conseil municipal donc il y a quelques mois, mais ils ne sont pas, je dirais, en fonction de ce qui s'est passé sur la patrotte, très compétents dans ce domaine-là.
Merci. Docteur Califé.
Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Je crois que je n'ai pas besoin dans cette salle, devant cette assemblée, de me réjouir de l'action de l'Aguram, qui fait un excellent travail depuis plusieurs années maintenant pour Metz et son agglomération. Donc j'approuve naturellement ce qui a été dit, mais j'ai juste deux questions techniques. J'ai bien compris que les 170 000 euros, c'est une commande qu'on fait à l'Aguram. Ce n'est pas une simple subvention, c'est une commande pour un travail qui est à peu près chiffré, mais j'ai vu aussi que son budget n'est pas loin de 3 millions d'euros par an. Alors, je veux bien que les autres communes de la CA2M fassent des commandes aussi pour l'Aguram, mais on reste loin de ce budget avec nos 170 000 euros, qui sont d'ailleurs un peu inférieurs à ce que la ville de Metz commandait d'habitude à l'Aguram. Alors, comment vous pouvez nous expliquer cet écart qui me paraît important? Est-ce que on sera amené plus tard à verser une subvention complémentaire quand on aura eu le budget définitif de l'Aguram ou non? Ou on s'en tient à 170 000 euros par an?
Reste Monsieur Maréchal.
Merci, Monsieur le maire, chers collègues.
Monsieur Maréchal, Monsieur Aldrin, après vous pouvez... voilà. Allez-y,
c'est
Monsieur Maréchal.
Voulez. C'est vous qui décidez.
Oui, Monsieur Maréchal.
Oui, je voudrais, si vous le permettez, faire trois remarques. La première, c'est que on assiste à des modifications importantes dans notre cité, et cette cité qui subit de plein fouet la crise. Il serait peut-être judicieux de demander à l'Aguram, d'ailleurs, d'intégrer dans ses travaux les conséquences sociales des suppressions d'emplois, notamment dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, hein. Cette année, 34 000 emplois en moins. L'année prochaine, plus de 40 000 emplois. Et ces emplois-là vont également être supprimés dans notre ville. La deuxième remarque que je souhaiterais faire, c'est sur les friches. La Lorraine connaît depuis 20 ans les friches industrielles. Grâce à M. Nicolas Sarkozy, notre ville va connaître de nouvelles friches militaires. Son gouvernement met des milliards à la disposition des banques pour soutenir le CAC 40, mais il refuse à notre région les moyens nécessaires pour construire un réel avenir au Lorrain. Je ne ferai pas de commentaires supplémentaires à ce sujet. Ma troisième remarque portera sur les restructurations hospitalières. Je pense qu'il est effectivement absolument important que l'Aguram se saisisse de cette question pour qu'on dispose d'une véritable expertise sur les conséquences des restructurations en cours, et notamment celle de l'opération Schumann. Il s'agit certes d'une opération initiée par un opérateur privé, mais qui touche quand même le domaine public. On peut s'interroger légitimement, pourquoi construire un hôpital neuf alors que des millions d'euros ont été investis, notamment ces dernières années, sur le site de Belle-Île. Et on laisserait ainsi, à notre ville de Metz, gérer des milliers de mètres carrés à reconvertir ou à convertir. Nous n'avons pas besoin à Metz de friches supplémentaires, me semble-t-il. Ce projet est d'autant plus... Monsieur Jacquat, s'il vous plaît. Merci.
Laissez parler l'orateur.
Non, mais je suis très très sensible à ce que vous dites, donc chaque fois que vous parlez, je vous écoute. Voilà,
Monsieur Maréchal, ne vous laissez pas distraire par le docteur Jacquat.
Donc, le projet Robert Schuman est d'autant plus contestable, puisque le seul bénéficiaire de l'opération serait la banque Dexia, véritable propriétaire du site, et qui serait donc tributaire, ou plutôt bénéficiaire d'une rente annuelle de 12 millions d'euros. Pouvons-nous accepter que dans notre ville, les restructurations hospitalières soient uniquement pilotées par l'appétit financier des banquiers ? Je pense qu'on a raison de s'intéresser à ces restructurations hospitalières de manière à ce qu'on puisse avoir demain une ville où l'ensemble des activités puissent continuer à se retrouver. Il y a des activités essentielles qui sont nécessaires à la communauté des hommes. L'accès aux soins est un enjeu important pour la population. Les études de l'AGURAM pourraient intégrer l'ensemble de ces questions.
Merci, Monsieur Maréchal. Monsieur Aldrin.
Oui, merci, Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, les missions particulières qui sont annoncées ici sont bien évidemment importantes, même si celle sur l'accessibilité des quartiers nord et nord-est de la ville ramènera certainement au débat sur la VR52, dont on attend... la décision politique après la promesse financière de l'État. Et c'est vrai que sur la réflexion sur le quartier de devant les ponts, là, par contre, dans un quartier que vous aimez bien, nous attendons des réponses sur plusieurs niveaux. La quinzaine des Vallières, c'est vrai que j'avais été un peu surpris de votre réponse que je vous ai posée dans un comité de quartier où vous m'avez dit l'ENIM était certainement une bonne chose, sauf que l'ENIM, l'année prochaine, aura un bâtiment au Technopôle. Également sur les anciens terrains des moulins de Strasbourg. Et puis, une réflexion qui, à mon avis, est inhérente à ce quartier, c'est celle de la pollution sonore, mais que je crois aussi vous avez souvent soulevée, à la fois sur le chemin de la Moselle, bien sûr, mais aussi surtout le secteur autour de la voie de chemin de fer près de l'avenue de Lory. Voilà. Monsieur le maire, ces éléments sur le quartier de Don-les-Ponts où peut-être vous avez déjà des pistes pour le futur.
Merci. Ah, écoutez, voilà un point, on aurait eu tort de ne pas le poser, hein, parce que c'est passionnant. Alors, d'abord la question stratégique de Mme Zimmermann, qui est effectivement une question stratégique. J'ai passé le déjeuner et l'après-midi dans le cadre du Sillon. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de participer à une conférence de presse en présence des maires d'Épinal, de Thionville, de Nancy, le président de la communauté d'agglomération, Jean-Luc Baule, et puis également des représentants, disons, des agglomérations d'Épinal et de Nancy. Et nous avons travaillé sur la notion dans le cadre des propositions qui arriveront bientôt à l'Assemblée nationale du rapport Balladur sur l'avenir des espaces urbains, et nous sommes en train de poser la problématique de la métropolisation polycentrique, parce que, vous le savez, une métropole, ce n'est pas seulement une masse d'habitants, mais c'est des services, et on peut très bien imaginer des services qui soient rendus dans le cadre de deux villes. On peut penser à l'université, à la culture, on peut penser à l'hospitalisation, il y a des complémentarités, et nous avons l'intention d'exister entre Paris et Strasbourg, et je pense que de ce côté-là, ça avance. Par contre, la question que vous posez, et qui est finalement indiquée en pointillé dans le rapport, mais vous l'avez bien pointé, madame, c'est la problématique de Mestionville. Nous avons un héritage absolument détestable d'un grand nombre d'intercommunalités qui, chacune, pour un bon nombre d'entre elles, défendent des intérêts qui sont des intérêts locaux et pas des intérêts globaux. Et donc, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer en compagnie de mon ami Bertrand Merz sur ce thème-là. J'entends bien que nous avancions, parce qu'effectivement, il y a une conurbation réelle entre Thionville et Metz. Il n'y a aucune raison que nous n'avancions pas dans ce domaine-là. Et je vais vous dire les domaines dans lesquels on peut avancer. Par exemple, l'AGURAM. Je vous signale que la ville de Thionville vient d'adhérer à l'AGURAM. Et l'AGURAM a accepté la ville de Thionville. Que la communauté d'agglomération de Thionville, je crois, a demandé son adhésion à l'AGURAM, à la Porte de France. Et que donc, bien entendu, ce sera accepté. Et que déjà avoir une agence d'urbanisme en commun est un premier pas, mais un pas très important. Vous avez parlé des SCOT, c'est une très bonne question. Le fait d'avoir deux SCOT n'est pas forcément un cadeau. On pourrait très bien imaginer, dans l'avenir, d'en avoir qu'un seul, mais c'est une avancée. Il faut que les élus l'envisage. Nous avons là un long chemin à faire pour que nous nous fréquentions entre élus alors que nos habitants se connaissent et habitent ensemble. Nos habitants se connaissent, habitent ensemble, vont chez les uns, chez les autres, travaillent ici, font du commerce là, se cultivent ici, étudient là. Et nous sommes dans 8 intercommunalités différentes. 8 intercommunalités différentes, chacune défendant son biftec. Il y a même des intercommunalités qui sont séparées en deux morceaux, en laissant au milieu des gens moins fortunés pour ne pas partager leurs richesses. Et donc on est là devant la préhistoire d'une situation catastrophique qui est un héritage que je prends à bras le corps, madame. Vous posez une question, il faut la poser aussi à l'histoire locale. À l'histoire locale. Comment a-t-on pu en arriver là? Merci. A-t-on pu en arriver là avec un système aussi éclaté d'intercommunalités qui, pourtant, sont constituées de communes et d'habitants qui fonctionnent complètement ensemble? Alors là, nous avons un travail particulier. Mon ami, je l'ai dit, Bertrand Mertz et moi sommes complètement décidés à ouvrir vers tout le monde, sans aucune condition d'appartenance à un camp ou à un autre. C'est essentiel, c'est très important. Et on commence. Je m'en suis ouvert à Jean-Luc Boll, qui est de cet avis, partage cet avis. Il faut avancer maintenant et interpeller tout le monde. Madame, si je peux me permettre, je compte sur vous. Je compte sur tout le monde pour avancer dans ce domaine-là. Nous avons besoin de commencer à travailler, j'en sais rien, sur un syndicat d'études. On va avancer, mais croyez-moi, il y a beaucoup à faire dans le domaine de la culture, dans le domaine des déplacements et de transport, vous l'avez dit, dans le domaine de l'urbanisation, dans le domaine des choix stratégiques, dans le domaine du partage de la richesse, parce qu'attention, il ne faut pas que chacun trouve son... De toute façon, je m'adresse au législateur, madame, en votre personne et en la personne de votre voisin. Je pense et j'espère qu'un jour, la loi permettra de mettre de l'ordre dans les dispositifs dont nous héritons. Parce que imaginez qu'on est en train de faire des efforts remarquables pour donner de la cohérence dans les rapports Nancy et Metz, et on progresse bien. On progresse bien dans cette notion de métropole bicéphale, mais ce serait la moindre des choses qu'on commence par faire de notre côté, hein, dans la conurbation Metz-Thionville, un travail minimum de cohérence entre nous. Voilà. Alors, Monsieur Antoine a parlé... Oui, le budget est insuffisant par rapport au chantier. Alors, effectivement, il ne s'agit pas... Et je réponds en même temps aux questions posées par le docteur Califé. Effectivement, le budget de 3 millions d'euros est le principal support de la CA2M. D'abord, il y a l'État, il ne faut pas négliger. Et ensuite, c'est la CA2M qui est chargée de la problématique de l'urbanisme. Nous avons, nous, là... un budget de participation de 70 000 euros qui correspond en quelque sorte, vous savez, c'est une forme d'équilibre, à des études spécifiques que nous demandons. Nous avons de toute façon un droit de tirage, entre guillemets, sur la CA2M. Il s'agit là d'une participation qui vient compléter, hein, qui vient compléter le dispositif général. Mais rassurez-vous, nous payons à travers la CA2M pour l'essentiel de notre participation. Monsieur Jacquat a parlé d'abord des friches commerciales. Alors, je vais vous faire une réponse qui est peut-être pas satisfaisante, mais nous n'avons pas un stock de friches commerciales, enfin de magasins fermés, qui soit anormal par rapport à la moyenne. Voilà. Alors, cela dit, il y a certaines friches commerciales qui sont très inquiétantes. C'est le type Bellecroix, par exemple. Où là, on est dans des zones, mais là, ça ne c'est pas l'Aguram, c'est des études spécialisées, avec des bureaux d'études spécialisés dans ce type de problème. Hein? Voilà. Vous avez parlé de beaucoup de choses d'ailleurs, docteur. Vous avez parlé du passage du TCSP, je vous ai la réponse, puisque vous l'attendez. Hein, oui, après le garage Peugeot, vous connaissez bien les lieux, on s'engage dans la route de Thionville pour un petit parcours et on tourne à droite vers la rue des Intendants Jobat, et ensuite on rejoint la Patrotte à travers les immenses espaces qui sont libérés. Là, on aura le dépôt des TCRM, globalement, d'ailleurs du Métis et tout le reste qui sera là à l'emplacement du service des essences, au bord de la voie ferrée, et ça passera par le petit tunnel, enfin le petit passage inférieur, le pont inférieur, rejoignant, en rasant l'ancienne école de Madame Genet, absolument, et arrivant, au niveau de l'autoroute à travers la rue de la Patrotte. Alors, l'étude de la route de Thionville, elle a été faite, effectivement, il y a encore beaucoup de travail, croyez-moi, il y a beaucoup de travail du côté de l'étude, voilà. Pour faire simple, Et en vous m'avez parlé des compétences de la GURAM en s'agissant de l'étude de la patrotte. J'ai bien écouté ce que vous avez dit. Je partage votre avis. Voilà. Pour faire simple. Monsieur Maréchal a posé la question des hôpitaux. Alors, on est parti là, à tous azimuts. Alors, l'hôpital Robert Schuman et le rassemblement des trois hôpitaux participant au service public, on s'appelle ça les PSPH, les hôpitaux privés participant au service public. J'ai bien dit participant au service public, à but non lucratif, voilà. Alors, il s'agit donc non pas d'adversaires du service public, monsieur Maréchal, mais d'hôpitaux sans but lucratif participant au service public. Alors, je rappelle que quand on gère mal et qu'on est un hôpital privé, il peut arriver ce qui arrivait à l'hôpital Sainte-Croix. À savoir que c'est la fermeture et l'absorption pure et simple par l'hôpital public. C'est en train de se réaliser dans des conditions qui étaient au départ pas du tout évidentes, mais il y a un gros effort qui a été fait par les personnels, par les médecins, par l'administration de l'hôpital, et c'est en train de réussir avec l'objectif de faire une maternité qui sera accolée à l'hôpital public à Merci, qui sera accolée à l'hôpital public pour un prix d'environ 40 millions d'euros, alors que le projet initial était autour de 70 millions d'euros. Il devait être écarté à 150 mètres de là, alors que là, il va être complètement collé. Il y aura une optimisation. Et donc, comme vous étiez très sensible et dans votre propos à l'argent en public, eh bien là, il y a une belle économie qui va être faite aussi bien au niveau de l'investissement que du fonctionnement. Maintenant, s'agissant des trois autres, ils se sont réunis, ils se sont organisés parce qu'ils ont compris que s'ils n'étaient pas organisés, eh bien, leur avenir était compromis. Et d'une certaine façon, leur projet était intéressant. Il n'empêche que comme ils participent au service public, il est normal qu'ils obtiennent le feu vert de l'État pour leur projet. Et actuellement, le projet est en cours d'examen par ce qu'on appelle l'ARH, hein, qui est le préfet médical régional, qui donnera le feu vert sur un projet qui sera compatible avec le format global des besoins du service public, puisque les uns participent, les autres en sont directement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de contradiction. Et là, de ce côté-là, je peux vous le dire, parce que je participe à ces travaux, les choses progressent bien, les gens se parlent, ce qui est important, hein, et on va vers une optimisation. Alors maintenant, les friches médicales, il y en aura une importante, c'est celle de l'hôpital public, hein, l'hôpital Bon Secours, et là, on y reviendra un jour, si vous voulez, parce que c'est un peu long, c'est beaucoup de... Mais les autres hôpitaux n'ont pas l'intention, sauf l'hôpital Saint-André, d'abandonner les lieux. Les deux autres hôpitaux, à savoir Belle-Île et Sainte-Blandine, ont l'intention de continuer à avoir des activités médicales, des activités médicales plutôt de soins de suite ou de traitement, voilà, de bon. Et donc, ça restera des lieux médicaux, aussi bien donc pour Sainte-Blandine que pour Belle-Île. Voilà ce que je pouvais... Et maintenant, s'agissant de la façon dont seront financés le futur hôpital Schuman, qui n'est pas encore tout à fait déterminé, hein, eh bien, si vous voulez, chacun, les PPP, ça existe, hein, chacun a le droit de se lancer dans l'opération comme il veut. Je n'ai pas de commentaire à faire sur la façon dont ça se passe. Maintenant, s'agissant des questions de M. Aldrin, il y en a plusieurs. La première, c'est la VR 52. Ce qui vient d'être donné comme possibilité avec un financement de 60 millions d'euros pour la VR 52 ne concerne en aucun cas le quartier de Devant-les-Ponts. Dieu merci. Ça concerne exclusivement le tronçon qui va de la vallée de l'Orne au secteur du rond-point au champ, là. Du rond-point au champ, vous savez, le grand haricot qui est près de l'autoroute au champ. Voilà. En aucun cas, il n'est prévu de continuer la VR 52 à travers Voipy et à travers Devant-les-Ponts pour fabriquer une autoroute urbaine qui viendrait doubler la voie ferrée et rendre encore un petit peu plus difficile les communications entre la patrotte et Devant-les-Ponts. Il y aura bien sûr nécessité de créer des voiries, mais en aucun cas ce doublement. C'était d'ailleurs, je vous l'indique, Monsieur Aldrin, puisqu'il semble que vous vous intéressiez particulièrement à ce quartier-là, je vais vous donner des éléments. C'était d'ailleurs une des problématiques qui a ruiné pendant des années et des années l'avancée du dossier du passage à niveau de la patrotte. Madame Genet connaît bien le sujet, on en a parlé souvent. À savoir que si on avait une autoroute à côté de la voie ferrée, c'est plus un passage inférieur qu'on fait, c'est un tunnel. Et à ce moment-là, ça complique tout et ça coupe encore davantage les quartiers qui sont déjà trop coupés les uns entre les autres. Et donc, j'ai obtenu, en me rendant chez le préfet, qu'enfin, on liquide le trait violet qui existait sur tous les plans de déplacement urbain de la ville depuis longtemps, où il était prévu cette autoroute qui devait aller jusqu'au pont de fer et de compléter l'échangeur, vous savez, le trèfle à quatre feuilles qui n'a que deux feuilles pour l'instant sur l'autoroute à devant les ponts. Et croyez-moi, c'est important parce que ce trait violet, il était indiqué qu'on ne savait pas qui en serait le maître d'ouvrage, il était indiqué qu'on ne savait pas quand est-ce qu'il serait fait, il n'y était indiqué qu'on ne savait pas qui le financerait et comment il serait financé. C'est-à-dire que c'était rien du tout, simplement c'était une réserve. Et je peux vous dire que dans le projet de passage inférieur du passage niveau de la Patrotte, dont l'étude maintenant, la préétude a été faite et l'étude détaillée est en train de se faire, avec la SNCF et Réseau Ferré de France, on est en train de faire un passage inférieur qui aura simplement la largeur de la voie ferrée, c'est-à-dire 12 mètres, plus 3 ou 4 mètres pour faire une piste cyclable. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question très importante et qui peut toujours revenir dans la conversation quand vous voulez. S'agissant de la caserne des Vallières, j'ai écrit au préfet pour me plaindre effectivement... Oui, j'aurais souhaité que l'énigme se fasse dans cette caserne, c'est vrai. Et je n'étais pas le seul d'ailleurs. À l'époque, M. Canton, qui est directeur de l'urbanisme de la ville, le souhaitait aussi. Il est parti juste après. Je voulais simplement vous dire que cette caserne appartient toujours à l'État. Et j'ai même reçu une lettre récemment du préfet qui m'a dit qu'elle était affectée à la gendarmerie. Et donc, oui, parce qu'à un moment donné, on avait envisagé de faire des logements pour la gendarmerie ou d'installer la gendarmerie là. Toujours est-il qu'on n'en dispose toujours pas et que les discussions continuent avec l'État. Si jamais vous connaissez du monde, on peut activer parce que, en réalité, la ville n'est toujours pas maîtresse de cet important patrimoine. S'agissant maintenant des terrains dont vous avez parlé, il y a plusieurs terrains industriels qui sont concernés le long de la route de Lory, et dont un qui est pollué par du zinc. Et tant que la problématique de la dépollution des établissements Banda n'a pas été réglée, il n'est pas sérieux d'envisager une urbanisation de ce secteur-là, parce qu'on ne pourrait le faire que par petits morceaux. Il y a déjà des terrains qui ont été libérés, hein, et sur lesquels d'ailleurs on est en train de construire. Il y a un garage qui est en train de se construire, vous l'avez vu, de l'autre côté. Et voilà. S'agissant de la pollution sonore, vous avez certainement assisté à la dernière réunion, qui était un peu longue d'ailleurs, de la CA2M. On vous a remis un CD, on vous a remis un CD qui est très intéressant, qui vous donne tout le détail de la pollution sonore par calcul de l'agglomération Messine, où effectivement il y a des zones qui sont polluées pour le son. Et donc on a en face de nous, c'est une compétence CA2M, mais on peut très bien s'y intéresser, on a en face de nous des problématiques de très longue durée sur cet aspect de pollution sonore, et nous y travaillerons ensemble pendant des années, croyez-moi. L'autoroute, les voies ferrées, etc., c'est une œuvre de longue haleine. Voilà ce que je pouvais répondre à toutes ces questions passionnantes qui nous ont été posées à propos de la Guram. Et maintenant, je mets le rapport aux voix. Est-ce que vous êtes d'accord pour les 170 000 euros ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, c'est une unanimité. Je vous remercie.